Je m'appelle Vincenzo, je suis un journaliste italien et je vis à Bruxelles depuis 3 ans pour couvrir les affaires européennes sous différents angles et pour différents médias.
Et je suis Hermine, également journaliste et rédactrice en chef de Ranet+. J'ai contribué à la version française de cet épisode.
Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai été impressionnée par la solidarité dont les gens ont fait preuve envers les réfugiés ukrainiennes. 12 millions de personnes sont, en effet, entrées dans l'Union européenne depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De loin, le plus grand flux migratoire de toute l'histoire de l'UE. Beaucoup sont déjà retournés dans leur pays, déchirés par la guerre, mais plus que 4 millions ont commencé une nouvelle vie, généralement précaire, dans l'un des 27 États membres de l'UE.
Les pays européens ont mis en place des mesures extraordinaires pour faire face à cet afflux massif de personnes atteignant leurs frontières. Certains ont donné accès à leur système de protection sociale immédiatement après le déclenchement de la guerre, ont fourni un abri aux familles dans le besoin et ont même versé aux réfugiés une contribution mensuelle pour les aider.
Comme vous le savez peut-être, les débats sur la migration sont très sensibles dans mon pays d'origine, l'Italie. Alors, je me demande si cette solidarité sans précédent des pays européens pourrait aussi avoir un impact à long terme sur la façon dont l'UE accueille les migrants. Pour mieux comprendre ce que signifie cette loi, je me suis rendu au Parlement européen pour rencontrer Juan Fernando López Aguilar, un membre espagnol du Parlement, qui est également président de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement.
They have free movement. They can freely choose their residence.
Ils ont la liberté de mouvement, ils peuvent librement choisir leur résidence en fonction de leurs relations, de leurs proches, de leurs possibilités. Ils ont accès au marché du travail et à tous les avantages sociaux de ce marché, y compris la santé et les services sociaux. Et le plus important, pour le droit des enfants à l'éducation, que les enfants soient intégrés dans les systèmes éducatifs des États membres.
La loi sur la protection temporaire est en effet l'outil le plus puissant et le plus innovant que l'UE ait adopté dans le contexte migratoire et dans toute son histoire. Il a été approuvé à l'unanimité par les 27 États membres une semaine seulement après le début de la guerre, alors que le nombre d'Ukrainiens atteignant l'Europe n'était encore que de 300 000, un chiffre déjà très élevé pour l'Union européenne, mais encore bien en deçà de ce qui se passerait à l'avenir.
La directive permet à toute personne fuyant le territoire ukrainien, quelle que soit sa nationalité, d'obtenir un permis de séjour dans l'Union européenne, initialement valable 1 an. Plus d'un million d'entre eux ont déposé une demande en Pologne, principale destination des réfugiés ukrainiens.
L'Union a soutenu ses efforts en accordant des centaines de millions dans un paquet de soutien et en permettant aux États membres de réaffecter leurs fonds européens disponibles à cette urgence, comme l'explique ici l'eurodéputé López Aguilar.
Nous avons adopté 2 instruments supplémentaires APLICAIR et CARE Plus, précisément pour aider les États membres à répondre aux besoins de millions de personnes fuyant la guerre, qui sont à plus de 90% des femmes et des enfants vulnérables, y compris des mineurs non accompagnés, exposés à la traite des êtres humains, à l'exploitation par le travail et à l'exploitation sexuelle.
Mais tout n'est pas qu'une simple question d'argent.
La Commission européenne a notamment présenté fin mars un plan en 10 points pour mieux coordonner l'accueil des personnes fuyant la guerre.
Les plans comprennent une cartographie des capacités d'accueil et d'hébergement, l'élaboration des procédures opérationnelles standards pour l'accueil des enfants et une stratégie de prévention de la traite et de l'exploitation des êtres humains.
Enfin, une plateforme de solidarité gérée par la Commission européenne, rassemble les pays de l'UE, les partenaires internationaux et les agences européennes afin d'assurer la mise en œuvre effective de la directive relative à la protection temporaire.
Plus récemment, la Commission a également créé un talent pool, un nouvel outil de recherche d'emploi en ligne pour les réfugiés afin de les aider à trouver un emploi en Europe. Les États membres européens ont également lancé une série d'initiatives pour relever certains des principaux défis liés à l'arrivée des millions de réfugiés ukrainiens, comme l'explique Alberto Horst Neidhardt. Il est analyste politique pour le programme européen Diversité et Migration au European Policy Center, un groupe de réflexion situé à Bruxelles. Et il est un expert sur ces sujets.
Juste pour donner deux exemples en matière de logement, il est évident que l'arrivée d'un si grand nombre de personnes pose des défis importants dans les villes et ailleurs où elles ont été les bienvenues. Et certaines nouveautés opérationnelles ont été introduites pour coordonner les États membres et s'assurer que chacun se voit offrir un logement adéquat et sûr. Un autre exemple, on a la coordination au niveau des droits des enfants à être intégrés à l'école.
De telles initiatives ont été mises en œuvre même par des gouvernements traditionnellement réticents à accueillir des migrants, comme la Pologne. En effet, les attitudes d'accueil semblent avoir prévalu, tant au niveau politique qu'au sein des populations, note Neidhardt.
A series of surveys launched both shortly after the beginning of the Russian invasion.
Une série de sondages lancés dès après le début de l'invasion russe et lors des derniers mois ont mis en exergue que la plupart des citoyens européens de l'UE, y compris dans les pays de l'Europe centrale et orientale, manifestent de la sympathie envers les personnes nouvellement arrivées et les réfugiés ukrainiens en particulier. La réponse des institutions montre également que les gouvernements des pays d'Europe centrale et orientale se sont mobilisés au maximum pour garantir la protection des réfugiés d'Ukraine.
Face à l'ampleur extraordinaire de cet exode humain, certains experts ont mis en garde de l'effet perturbateur qu'il pourrait engendrer sur la politique migratoire de l'UE.
Mais malgré quelques difficultés dans certains États membres, le modèle social européen ne s'est pas effondré en raison de l'arrivée de millions d'Ukrainiens.
Se pose alors la question, si 4 millions de personnes n'ont pas eu l'effet d'un tremblement de terre sur le système social européen, pourquoi l'accueil de 100 000 Syriennes, quelques milliers d'Irakiennes ou d'Afghans, pour ne citer que la précédente crise migratoire, représenterait-elle un tel fardeau pour les Européennes? Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait probablement cette question en tête lorsqu'elle a déclaré dans son dernier discours sur l'état de l'Union en septembre que les actions de l'UE envers les réfugiés ukrainiennes ne devraient pas être une exception, mais un modèle.
Ursula von der Leyen a appelé de ses voeux un système à l'épreuve des crises, au déploiement rapide, ainsi qu'un mécanisme permanent de solidarité.
D'autres personnalités européennes, y compris au Parlement européen, sont sur la même longueur d'onde.
We should actually try to gain momentum out of this moment of generosity.
Nous devrions en fait essayer de tirer parti de ce moment de générosité, de compréhension de la complexité de la guerre d'Ukraine pour élever le niveau de l'Union européenne sur tous les fronts. Et bien sûr, alors que nous légiférons maintenant sur le pacte sur la migration et l'asile, nous devrions également en profiter pour tirer les leçons sur ces 5 règlements pour trouver un compromis entre responsabilité partagée et solidarité obligatoire.
Le pacte de 2020 sur la migration et l'asile, un ensemble législatif complexe de 9 instruments destinés à modifier le régime d'asile de l'Union européenne, est en effet le point principal de discorde de négociation de l'UE sur les flux migratoires.
Sa partie cruciale et la plus contestée est ce règlement mettant en place un mécanisme de solidarité permettant aux migrants d'être relocalisés sous certaines conditions vers d'autres États membres, dès lors qu'un système national est sous pression.
Mais en plus de 2 ans, seuls des progrès mineurs ont été engrangés.
18 pays ont trouvé un accord sur un mécanisme de solidarité volontaire en juin dernier. Mais cette plateforme intergouvernementale doit encore démontrer son efficacité.
Bref, trop peu pour dire que les discussions entre les gouvernements nationaux n'ont pas abouti à une impasse prolongée.
En théorie, La guerre en Ukraine aurait pu faire avancer la politique migratoire de l'UE, mais Alberto Horst-Schneidert en doute.
Nous
voyons donc de faibles signes suggérant qu'il y aura un changement politique et qu'un ensemble plus large de réformes sera introduit dans les mois à venir.
Même la décision d'accorder légalement aux réfugiés ukrainiens une protection provisoire à l'échelle de l'UE, en vertu de la soi-disant directive sur la protection temporaire, si elle est sans précédent, comporte des faiblesses.
This unanimity is not visible in respect to other reforms that have been proposed at EU level.
Cette unanimité n'est pas visible par rapport aux autres réformes qui ont été proposées au niveau de l'UE. Pour revenir sur les réponses qui ont été mises en place et pour comprendre si la réponse à l'Ukraine pourrait être utilisée comme modèle. Il est également intéressant de noter que les réfugiés ukrainiens ont pu voyager librement à travers l'UE. Car les réfugiés d'autres pays n'ont pas cette possibilité. Ils doivent rester dans le pays qui les a accueillis, et ce, pendant toute la procédure d'asile.
Selon lui, cela s'est produit principalement parce que, pour les réfugiés ukrainiennes, des acteurs politiques et des gouvernements de différentes couleurs politiques se sont réunis et se sont mis d'accord à l'unanimité pour fournir une protection, montrant ainsi qu'ils sont conscients de la situation dramatique et qu'ils sont soucieux de les soutenir. Au lieu de cela, les mêmes acteurs politiques sont divisés sur la manière de gérer les flux des réfugiés en provenance d'autres pays, en particulier de la région sud-méditerranée.
Ce double standard affecte également la perception des citoyens européens qui ont pris conscience du soutien des autorités européennes aux Ukrainiens et se sont sentis plus encouragés à les accueillir.
Pourquoi n'avons-nous pas été aussi réactifs, aussi généreux avec ceux qui ont fui la guerre civile syrienne ? Étant donné que les chiffres étaient bien inférieurs, pourquoi nous sommes-nous montrés si faibles avec ces pauvres familles en souffrance, instrumentalisées ou militarisées par la Biélorussie de Loukachenko contre les Baltes ? Quelle a été notre réponse alors ?
Alors que la guerre en Ukraine continue à forcer des personnes à fuir les pays, d'autres routes migratoires ne sont pas moins fréquentées, mais sont peut-être juste relayées dans l'actualité.
Les dernières données disponibles de Frontex, l'agence européenne des gardes-côtes, montrent que les entrées irrégulières enregistrées au cours des 9 premiers mois de 2022 ont représenté le pic le plus élevé depuis la crise migratoire de 2015-2016.
Un nouveau défi pour les systèmes d'asile européens pourrait se profiler. Elle pourrait révéler que les gouvernements de l'UE tracent une ligne stricte entre les réfugiés ukrainiens et les autres réfugiés. Par exemple, le nouveau gouvernement italien a récemment empêché les migrants secouraux en mer Méditerranée de débarquer dans les pays. Je vous reviendrai bientôt dans un épisode de suivi sur ce sujet. D'ici là, merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Voix de Bruxelles.